Bonjour à tous, bienvenue à votre Ciné Brunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau et de François Genet. Bonjour.
Bonjour.
Dernière émission de Ciné Brunch avant la saison estivale qui arrive à grands pas, exactement. Oui. Pour certains d'entre nous, c'est la dernière fois qu'on s'entend pour l'été, donc on vous en parlera peut-être plus vers la fin de l'émission, mais profitez de nos voix, hein, parce que... Mis à part le fait que vous pouvez nous réécouter en rediffusion et sur notre site web et en balado pendant plusieurs années, on sera plus là pour l'été. Donc voilà. Mais des gens nous remplaceront, on en parlera un peu plus tard. Donc voilà, bienvenue à ce Ciné Brunch, votre magazine de cinéma radiophonique qui s'assume totalement et pleinement. Et aujourd'hui, ben, pour cette dernière émission estivale, François va nous présenter un sujet un peu particulier, un sujet qui concerne les records au cinéma.
Oui, tout à fait. Oui. Je pense avoir préparé quelque chose là-dessus. On va voir.
Bon, on verra bien. On va voir ça en deuxième demi-heure de l'émission. Sinon, on va critiquer pour vous trois films au cours de cet épisode. On va critiquer le film Late Night, encore une fois par François. Meurtre Mystère, un film Netflix que Mélina a vu. Et de mon côté, j'ai vu Le Mystère d'Henri Pic. Il y a beaucoup de mystères dans cette émission.
Tout à fait. On verra bien. Ma chronique de fin sur les records.
Oui, tout à fait.
De mystères.
J'ai bien hâte d'entendre tout ça. Et sinon, en attendant, on a des petites choses à vous dire. Donc, tiens, commençons par Mélina.
D'accord. En fait, oui. Moi, j'ai décidé de faire comme François, puis de faire un lien entre le film que j'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais le film dont je vais vous parler aujourd'hui et ma nouvelle.
Ah, donc, bien joué.
Oui. Ben, François l'a fait quelques semaines de temps. Oui.
Oui, ben, c'est ça. Tu m'as inspiré, François.
Ah,
écoute, c'est comme ça.
Ça arrive.
En fait, tout ça pour dire qu'il semblerait que Apple TV+, donc vous savez, la plateforme de streaming dont Jim nous parlait récemment,
oui.
Ils ont décidé qu'ils produiraient 6 films qui vont viser les Oscars et rien de moins. Donc, on dit qu'ils sont inspirés par le succès de Netflix avec le film Roma, qui avait gagné meilleur film en langue étrangère.
Tout à fait.
Une lenteur considérable, oui.
Ben, en fait, c'est ça. Donc, Apple TV+, a décidé, approche déjà des grands réalisateurs pour des projets de films qui sont entre 5 et 30 millions de dollars et vise les Oscars. Donc, quand même, ça me fait penser beaucoup à, en fait, quand on parlait avec André Jean. André Jean nous avait présenté un peu l'histoire du cinéma américain des grandes compagnies de production qui finançaient justement le cinéma qui vient de là. Et là, on est vraiment en train d'assister, on s'en rend pas compte, mais on est vraiment en train d'assister à un changement parce que là, c'est des grandes compagnies de technologie qui commencent à s'approprier de plus en plus ce marché-là en commençant par prendre le marché du streaming. Et là, bon, on va rentrer dans la course aux Oscars. Puis il y a eu des débats là-dessus. Est-ce qu'on laisse ces films-là rentrer dans la course?
Il y a, comment ça s'appelle?
Il y a un
Spielberg
réalisateur
qui se s'opposait à ça, là, au fait que des réalisateurs que des compagnies comme Netflix ou des compagnies de distribution sur demande puissent avoir accès aux Oscars. La question se pose toujours, hein, pourquoi on fait des films? Moi, je reviens toujours à ça.
Exactement. Puis ce qui est très drôle, c'est que Spielberg est dans ceux qu'on dit qui serait en discussion avec Apple TV+.
Mais quelle hypocrisie!
Donc, peut-être était-ce un soupçon de jalousie,
sur
on ne sait pas. Oui, on ne sait pas.
Oui, peut-être. Hein? Peut-être que finalement, il s'est dit « Ah, je vais me mettre du côté des gagnants. »
Jim, as-tu une dent contre lui?
J'ai une dent salée.
Oh là là!
N'est-ce pas? Donc, merci Mélina. On va suivre ce qui va se passer avec ça. J'imagine qu'on va en entendre parler et que ce ne sera pas les seuls. Là. J'imagine que Disney va
J'imagine tout le monde va embarquer. Puis là, la course aux Oscars et tous ces festivals-là, en fait, vont complètement devenir différents avec des choix différents. Donc,
tout va changer. Bientôt, on va pouvoir dire « Dans mon temps! »
Ben oui, moi je le dis déjà, en fait.
Ah, voilà.
Bon.
Tout à fait. Moi aussi.
Et toi, François, dans ton temps?
Oui, dans mon temps. La semaine passée, c'était bien mieux. Non. Alors, mais une petite nouvelle intéressante. Moi, j'ai décidé cette semaine de finalement pas parler du film que j'allais parler de vous.
C'est tellement éclectique.
Non, je sais. Je change comme ça de tactique. En fait, je vous parle de quelque chose de peu cocasse. La police thaïlandaise a annoncé qu'ils ont arrêté un fugitif italien qui est condamné à une peine de prison pour avoir utilisé le nom de George Clooney pour convaincre des victimes d'inventaire d'investir dans une compagnie de vêtements frauduleuse.
Wow!
Oui, tout à fait, parce qu'évidemment, on sait que si jamais George Clooney avait une compagnie, ce serait clairement une compagnie vêtements.
De vêtements pour clowns.
Oh, ah, mon doux. Alors, c'est ça. Alors, ils ont arrêté le dit homme l'homme de 58 ans, Francesco Galdelli. Galdelli, tu vois, il y a un délit dedans, tu vois, déjà.
Oui, ben, déjà, c'est là que ça devient. Hein, c'est génétique.
Oui, tout à fait. Oui. Donc, ils l'ont arrêté. Et c'est le fun parce que dans l'article, ils ont même mis une photo du faux George Clooney et du vrai George Clooney, marquant en dessous le vrai George Clooney. au cas où que les gens
se fassent flouer.
Pas du tout. Okay, pas du tout. Ouais. Il y en a un qui est glamour avec des lunettes de soleil hollywoodiennes et l'autre qui est en sandales et semble d'un paysan. Alors,
clairement, les gens n'avaient pas vu Ocean's Eleven, les gens qui se sont fait arnaquer par
courriel. Non, mais en fait, je pense qu'ils se sont fait arnaquer par courriel là, ou par téléphone. Je pense pas qu'ils soient pointés devant eux en disant « Salut, je suis George Clooney ».
Mais pourquoi George Clooney essaierait de contacter des gens pour leur vendre du linge? C'est déjà la question qu'on doit se poser.
Ben, c'est une très bonne question. Et,
ben, en fait, c'est ça.
A-t-il vraiment besoin de ça? C'est ça, la chose.
Ben, exactement. Et un tribunal de Milan avait déjà condamné...
c'est long, ce Milan,
Galdelli. Oui, tout à fait. Ouais. De Milan. Oui, tout à fait. La ville, évidemment. Oui. Avait déjà condamné le dit homme à plus de 8 ans de prison en 2010 pour avoir incarné M. Clooney afin de berner des investisseurs. Donc, vraiment...
Okay, il n'était pas son premier délit.
Non, tout à fait. Alors, ça faisait 7 ans qu'il était en Thaïlande, puis donc...
On ne sait pas, il y a peut-être une fascination pour l'homme.
Ben, peut-être, tout à fait. Peut-être que lui, à l'Halloween, il se déguisait tout le temps George Clooney, puis là finalement il s'est rendu compte que c'était pas toujours l'Halloween tous les jours de l'année.
Ça doit être, on s'en reparle donc en octobre pour voir la suite pour de voir cette aventure.
Oui, peut-être qu'il va encore sonner à vos portes en disant j'ai des vêtements à vendre. On ne sait pas qui c'est. Mais en tout cas, faites attention si George Clooney vous dit j'ai une compagnie frauduleuse.
Oui, ben, c'est peut-être pas lui. Hein?
C'est peut-être pas lui.
C'est un Italien.
Tout à fait.
Bref, merci François.
Plaisir.
De mon côté, donc, c'est ça. Hein, moi, je vais vous parler de Daniel Craig qui, comme François, a été blessé à la patte arrière pendant le tournage du nouveau James Bond.
Oui, parce que moi aussi, j'étais au tournage. Hein? De nouveau James Bond.
On a vu que tu étais sur IMDb et tout ça.
Oui, exactement.
Donc, c'est ça, il s'est blessé et on a appris qu'il s'entraînait très durement pour reprendre du poil de la bête et continuer le film et pour qu'on puisse avoir ce film idéalement pas trop plus tard que prévu. Hein? Ça se dit pas, mais
non,
bon.
C'est tout à fait.
Voilà. Ouais. Et sinon, vous pensiez qu'en avoir fini avec Hunger Games, mais non, l'auteur Suzanne Collins a annoncé un autre roman dans l'univers post-apocalyptique de Hunger Games. Et compte tenu du succès des films, ça serait pas surprenant de voir apparaître les sourcils assumés de Jennifer Lawrence d'ici quelques années, donc au cinéma, on verra bien.
Pourquoi juste ses sourcils?
Vous avez pas remarqué qu'elle avait comme tendance à froncer les sourcils un peu?
Oh, non? On sent que t'as été marqué par ça. Hein?
Ah, moi, ça m'a marqué, oui. Côté traumatisé. Ça m'a marqué. Oui. Bon, mais je me suis rendu compte que j'avais mal aux yeux après avoir vu les films Hunger Games, parce que par imitation, j'avais tendance à froncer les sourcils.
Ah, mon doux. Ouais, est-ce que tu veux partir une compagnie de vêtements sous son nom ou...
J'ai pensé, les sourcils Lawrence, oui, mais bon, je vais voir si ça n'a pas l'air à pogner ces temps-ci.
Oui, non, mais de toute façon, Lawrence, il y a le mot « là » dedans, donc il faut faire attention pour suivre la justice. Là, dans ce sens-là.
Ah, c'est d'accord. Il faut être bilingue, là, pour, oui, là, c'est ça. Mais il Lawrence. Manque une. Ah, mais oui, c'est vrai.
Non,
ça l'écrit comme ça.
Il manque pas de lettres.
Je suis bousculé là, par tes jeux de mots, François. Qu'est-ce qui se passe?
Tout s'est planifié d'avance.
Oui, bon, ça va me faire du bien les vacances. Merci, François. C'est le moment où François Genet coupe la parole à Mélina et nous présente le film Late Night.
Oui, tout à fait. On sent qu'elle était toute là, Jim, comme dans une fin de soirée.
Je suis toute là, L-A-W, François.
Oui.
Je fais la loi.
Et voilà. Alors, donc, fin de soirée en français, Late Night, parce que ça se traduit encore une fois mal. J'ai souvent des films qui se traduisent un peu mal, le titre, parce que c'est comme un Late Night américain. Hein? Ah. Évidemment, on est là.
Donc le spectacle de télé, là, le show télé
aux États-Unis le soir. Et le
night show, en fait, les late shows.
Les late night shows.
Il y en a plein de noms.
Il y a plein de noms où on peut les
appeler. C'est vrai que ça marche beaucoup là-bas. Oui. Ici, ça marche pas trop, les night shows.
Non, on a essayé de faire ce genre de truc-là à plusieurs reprises. Ça n'a pas souvent marché.
Ils ont essayé de faire SNL Québec à un moment donné.
Mais SNL, c'était déjà un peu plus festif. Le vrai late night,
c'est.
Mais on essayait d'en faire un avec. Papa dans Petite Vie, notamment.
Oui, tout à fait, avec Le Timmy Show, ça marche pas. On a essayé
plusieurs
fois, mais c'est parce que souvent, on met ça aussi à des plages horaires qui sont différentes. Tu sais, les late nights, souvent, ça finit extrêmement tard. Il y a une autre vision de la chose qu'au Québec, on pourrait pas mettre un show à 10h30 le soir qui finit ultra tard. Donc, un show de chaise avec des interviews, avec des jeux, des choses qui deviennent virales sur Internet. Et là, je sais pas quel joke j'ai fait sans m'en rendre compte.
Un show de chaise. J'imaginais juste des chaises parler entre eux. Puis...
Et mon doux,
Pour ça, il y a toujours la possibilité de regarder Walt Disney.
La Belle et la Bête.
Je faisais référence avec Mickey Mouse là, dans. C'est juste de la musique.
Fantasia.
Là. Fantasia,
tout à fait.
Ah, oui. Là, il y a un show de chaises.
Oui, on se croirait dans un quiz présentement. Revenons à Late Night, le film. Fin de soirée. Donc, c'est le synopsis, rapidement, c'est une présentatrice de Late Show découvre qu'elle risque de perdre son emploi après avoir embauché une scénariste qui revitalise à la fois son émission et sa vie. Quand même, c'est profond comme patente.
On sent que c'est un film très profond.
On va voir. Alors, on va tout de suite aller écouter la bonne annonce, puis on s'en reparle de l'autre côté.
Parfait.
Qui êtes-vous? Je suis Molly, votre nouvel auteur.
Asseyez-vous.
D'accord.
C'est la place de Mendelssohn.
Vous pouvez vous asseoir. Bien sûr, je vais prendre cette poubelle. C'est parfait, il n'y a presque pas de déchets à l'intérieur. Ouh, c'est encore plus confortable qu'une chaise.
Bonne fin de soirée, cher public.
Je suis venu vous dire que c'est votre dernière année.
Quoi?
Ils ne te remplaceront pas si tout le monde t'adore.
Est-ce que vous comprenez l'ampleur de la situation? Je vais être remplacée. Alors trouvez ce qui cloche avec l'émission et réglez le problème.
J'aimerais être une femme de couleur pour avoir n'importe quel emploi.
Tu peux pas dire ça, on en a déjà discuté.
Je sais ce que les gens pensent de moi. J'ai eu de la chance d'obtenir cet emploi. Alors je ne serai pas si stupide pour le perdre.
Je veux que vous me disiez honnêtement quel est mon problème.
Vous êtes un peu trop vieille et trop blanche.
Qu'est-ce que je peux y faire?
J'ai des blagues pour le monologue. Vous voulez que j'essaie de vous imiter ou...
Non. Watch it!
La question qui me vient tout de suite, c'est « As-tu vu le film en français ou en anglais? »
En français?
Oh!
J'ai vu en français, oui, je me suis dit « Pourquoi pas? » On va aller là.
Je me serais dit « Pourquoi? » Mais oui, c'est ça. Continue.
Oui, non, mais tout à fait. Non, mais c'est intéressant quand même, même si c'est en français, mais on reviendra là-dessus, peut-être si on a le temps. Réalisation de Nisha Ganatra et la distribution Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Reed Scott et tout plein d'autres personnages loufoques. On ne sait pas
si c'est tes notes ou les noms, mais voilà, c'est ça.
C'est écrit par Mindy Kaling et qui joue aussi un rôle, le rôle de la scénariste qui est embauchée. Donc, elle écrit et elle joue dans le film. Et c'est un petit peu... ça doit faire un petit peu partie de sa vie, écrire sur des late night, parce qu'elle a écrit sur SNL, elle a été aussi avec Conan O'Brien comme stagiaire. Donc, elle a vécu un peu, c'est quoi le être writer, être écrivain sur un show. Écrivain, ça a l'air d'être un peu difficile.
C'est plus pompeux. Hein?
Ouais,
c'est
auteur.
Scénariste, peut-être.
Oui, auteur, oui, sur des shows comme ça. Donc, on sait qu'elle a l'expérience et ce qu'elle raconte, ça doit être comme ça aussi un peu aux États-Unis, dans la vraie vie.
Ouais.
Donc ça, c'est intéressant. Sinon, elle a écrit en pensant à Emma Thompson dans ce rôle-là. Donc ça, c'est intéressant. Et on l'a vu, elle fait souvent des rôles très... très stricte, avec des femmes fortes qui se laissent pas aller beaucoup dans les émotions, avec, tu sais, Saving Mr. Banks, elle faisait la femme là-dedans.
Emma Thompson?
Oui, tout à fait. Donc, elle a souvent des rôles comme ça, donc c'est un rôle qui a été écrit pour elle, et ça marche très bien. Elle incarne son rôle de façon magnifique. Pour vrai, c'est très, un point assez positif du film, et aussi le fait que la personne qui a écrit le film joue dedans, moi je trouvais que ça marchait super bien, puis qu'elle l'a écrit vraiment en pensant à elle et aux deux, donc, protagonistes principales de la chose. Là où ça va un peu moins bien, moi j'aime ça les films comme ça. Je sais que ça paraît pas, mais les films qui sont cotés des fois films de filles, Souvent, j'aime ça.
Ça vient de chercher.
Des fois, j'aime ça.
T'es sensible.
Oui, je suis une petite bête sensible quand même. Et un des films que j'aime aussi, c'est Le Diable s'habille en Prada. Je sais c'est un très bon film quand même. Et je trouve que c'est la version 2019 du Diable s'habille en Prada.
Oh, c'est intéressant ça.
Ah bon.
Donc, c'est intéressant, mais ça reste que... par après, je me suis dit... Est-ce que, pour quelqu'un qui n'a pas vu les deux films, c'est lequel que je recommande le plus, tu sais? Le Diable s'habille en Prada ou la nouvelle version? Puis il y a un côté de moi qui dit peut-être que Le Diable en Prada est encore meilleur parce que les jokes sont bonnes dans Late Night, mais c'est très actuel et j'ai l'impression que ça va mal vieillir.
Plus que l'autre, qui est plus ancien.
Oui. Parce que là, c'est beaucoup de jokes sur comment présentement aux États-Unis c'est, avec justement le côté, le contexte des hommes blancs, le côté vraiment disproportionnel. Aux États-Unis, on fait beaucoup de jokes, surtout les humoristes font beaucoup de jokes là-dessus, sur le côté racial, les différences d'opportunités aux États-Unis. Puis j'ai l'impression que c'est très axé sur le public américain, que c'est vraiment axé pour eux. Présentement, il y a un besoin pour ça, puis que ça marche bien. Mais je sais pas, puis j'espère que dans 5-10 ans, qu'on va trouver ça bizarre. Tu comprends? Parce que les choses vont avoir changé, puis qu'on va peut-être trouver ça un peu plus étrange.
C'est trop actualité, autrement dit.
Ouais, j'ai trouvé que les jokes étaient très, très, très actuels. Fait que pour l'instant, ça marche bien. On passe quand même un bon temps, on passe un bon moment. Mais pour vrai, c'est ça. Je suis un peu tiraillé là-dedans parce que je trouve que c'est un bon film. J'ai passé un bon moment. Il y a des petites longueurs, mais à peine. Ça passe quand même bien. On a du fun. Mais de là à dire que ça bat l'origine du Diable s'habille en Prada, peut-être pas. Mais si vous aimez plus la télé que le thème de la télé que le thème des vêtements, peut-être que ça va plus vous interpeller. Moi, j'adore le thème de la télé. Donc, c'est sûr que ce côté-là est allé me chercher plus. Mais pour quelqu'un qui triperait pas tant que ça plus sur le thème de la télé, il n'y aurait pas vraiment quelque chose de plus à aller chercher là.
Fait que les fans de vêtements, ils trouveront pas leur compte là.
Les fans de vêtements, allez sur Le Diable s'habille en Prada. Les fans de la télé, vous pouvez aller plus vers Late Night. Et les fans de rien du tout, ben allez plus vers Le Diable s'habille en Prada. J'ai l'impression que ça va plus être intéressant.
Mais l'humoriste en toi, là, en tant qu'humoriste, là, les gags comme tels dans le film, est-ce que c'est utilisable ici? Est-ce que ça marche? C'est pas malaisant?
Non, c'est pas malaisant dans la majorité des cas, mais on joue beaucoup sur les cordes sensibles qu'ici, qu'on n'est pas habitué de jouer. T'sais. On n'est pas habitué de jouer sur les trucs de race tant que ça, sur les trucs d'hommes blancs.
On est plus prudes, peut-être?
Oui, peut-être. Puis on en parle moins dans la société, mais présentement, au niveau des comics américains, c'est un sujet que je vois beaucoup. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on est obligé d'en parler parce que ça fait partie de la société américaine avec Trump au pouvoir, avec tout ça. Je pense que ils sont obligés d'en parler parce que c'est une copie de... Tu sais, un humoriste, c'est la copie de la société. Fait que je pense qu'ils sont obligés d'en parler, puis je pense que c'est bien qu'ils en parlent, puis je pense que c'est bien que ça se reflète jusque dans les films, tu sais. Mais de là à ce que... Encore une fois, on en a parlé avec Longshot aussi.
Ouais.
C'est souvent ça, ces temps-ci, les films américains, les comédies américaines, il y a beaucoup de ça. C'est un reflet de la société américaine parce qu'on a l'impression que quelque chose a changé présentement, qu'il y a des trucs qui changent dans cette société-là. Et j'ai l'impression que ça s'exporte peut-être un peu moins bien et que ça va peut-être un peu moins bien vieillir.
Bon.
Mais bon, sur ce, je donne quand même un 7.5. Un bon film. Si vous aimez ce genre de film-là en plus, comique, sentimental un peu, des femmes fortes, intéressant à voir au cinéma aussi. Donc, intéressant. Une belle petite découverte que tu te loues ça puis tu t'endors. côte à côte, intéressant. Un petit film pas.
Soirée relax,
c'est ça que je veux dire, c'est ça. Pas que tu t'endors dessus, mais une petite soirée relax.
Soirée relax au cinéma. Bon, mais excellent. Ouais. Merci beaucoup, François.
Plaisir.
C'est le moment où Mélina nous parle d'un film Netflix. Allez, deux de suite.
Oui, de quoi de tu?
Ben, moi, j'ai fait un la semaine passée. T'en as fait un cette semaine. On se lâche lousse.
Ben oui, c'est ça. Non, mais en fait, c'est apparu cette semaine sur Netflix. L'image, ça met en vedette Adam Sandler et Jennifer Aniston. Donc, un duo quand même intéressant. Ça s'appelle Meurtre Mystère. C'est une comédie policière américaine. Je sais pas, j'avais envie de voir ça. Hein. Vous savez, Netflix, c'est toujours particulier parce qu'ils aiment beaucoup donner la chance à des jeunes réalisateurs émergents ou des jeunes scénaristes. Donc, les films, c'est pas comme je disais tantôt à Apple TV+, qui dit « Nous, on va faire 6 films qui visent les Oscars ». Les films de Netflix, c'est pas nécessairement ça. On fait des films, on crée du contenu original, puis
mais quand même, c'est quand même des grosses pointures là, au niveau de la
dans ce film-là, oui.
Tout à fait. Qu'on n'est pas nécessairement toujours habitué de voir sur Netflix, si je ne m'abuse.
Ben, Adam Sandler,
il a signé un contrat parce que c'est pas bon qu'il fait de suite.
Oui, tout à fait, il a signé un contrat. Ouais, c'est ça.
Ouais, mais je pense que c'est pareil aussi pour Will Smith aussi.
Oui, aussi.
Il y a plusieurs acteurs quand même connus, une couple de têtes d'affiche, mais Netflix, en tout cas, j'ai l'impression ces temps-ci, sa mode, c'est ils vont dans différentes régions du monde, ils signent des contrats avec des acteurs un peu moins connus.
C'est ça.
Mais qui voient un talent, puis leur donne carte blanche, puis ça donne des affaires assez impressionnantes.
Il essaie des trucs, vous savez.
Oui, c'est ça. Il expérimente, c'est ça.
C'est
ça
qui est intéressant. Puis il y a aussi Danny Boone dans le film, qui joue un inspecteur français. Oui, ici, mais vous savez, Bienvenue chez les Ch'tis, entre autres.
C'est pas un film français.
Non, c'est pas un film français, mais ça se passe à Monaco. Il y a un meurtre. Mystère,
c'est ça que j'allais
dire. La police arrive, le détective arrive, et lui, il joue le rôle du détective envoyé par la France, j'imagine, ou quelque chose comme ça.
Oui, parce que c'est à côté, donc...
C'est ça. Donc, ça, c'est ça un peu, en fait.
En fait, c'est autour. Oui, excuse-moi.
Donc, c'est ça, c'est réalisé par Kyle Nowacek et c'est scénarisé par James Vanderbilt. Deux personnes qu'on connaît pas tant, à part James Vanderbilt, qui a écrit notamment The Amazing Spider-Man 1 et 2, donc ceux réalisés par Mark Webb, 2012-2014.
Ouais, avec l'acteur, j'oublie son nom. Celui qui embrasse à l'envers, là.
Ben, ils font tous ça, en fait.
Tommy McGuire.
Non, c'est pas... Non, ça, c'est ceux... Là, tu parles de la version beaucoup en plus. Avant, moi, je parle de ceux en 2012-2014.
Ah, bon, excuse-moi. Moi, c'est juste...
Mais il s'appelle Webb, puis il fait Spider-Man, c'est sûr que...
Il y avait un nom prédisposé.
Pour travailler sur un Spider-Man.
C'est ça! C'est ça. Fait que, comme je disais, deux personnes qui ne sont pas tant habituées de faire un film, qui essaient de faire un truc, qu'on se retrouve avec un truc qui est quand même original. Dans le fond, on suit l'histoire d'un couple qui s'en va en Europe pour leur voyage de noces 15 ans après leur mariage, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas eu le temps. alors qu'ils sont dans l'avion, ils rencontrent un milliardaire, le vicomte Cavendish, qui les invite sur le yacht de sa famille. Et donc, ils se retrouvent dans un meurtre et mystère plus réaliste que jamais.
Parce qu'il y a vraiment des gens qui meurent.
Ouais. Tu sais, quelque chose qui n'a pas été fait encore, là.
Ben, c'est ça, en fait. Donc, pour se rafraîchir les oreilles, on va aller écouter la bande-annonce du film Meurtre Mystère.
Que venez-vous faire de l'autre côté de l'océan?
C'est mon voyage de noces.
Où est votre mari?
Il est mort. Mort de fatigue. Il est en train de dormir. Monsieur, vous devez regagner votre siège, autrement je devrais appeler...
La police?
Tiens, salut chérie. On est déjà mariés depuis 15 ans, mais on a vraiment, vraiment été extrêmement occupés. Charles nous invite à passer le week-end dans sa compagnie sur son yacht.
Je me présente, inspecteur Laurent Delacroix. Je vais vous demander de me suivre pour un interrogatoire.
Alors, visiblement, une voix particulière pour Danny Boone.
Oui, quand même, mais c'est sa propre voix, en fait. C'est lui qui s'est doublé en français. Ben, il s'est pas doublé, ils ont gardé la voix. Ben, non, il s'est doublé, en fait.
Parce que ça ressemble pas à sa
voix. Je sais, mais ça a l'air que c'est lui qui s'est doublé en français. Mais moi aussi, je trouvais que ça ressemblait pas à sa voix.
Sûrement qu'il y avait eu une dure journée et qu'il n'avait pas pris des halls pour...
Ça doit être ça. C'est la gorge, hein? C'est la gorge. Comme François qui a une grippe.
Non, pas de grippe. C'est une fausse information.
C'est ça. Fait que ça, c'était la bande-annonce de mon film. Je vous dirais, bon, c'est un concept qu'on a déjà vu. C'est quand même assez amusant. Mais ce film-là, c'est une parodie. Il faut le savoir, évidemment, c'est une parodie. Donc, c'est un peu con. Tout est exagéré, les personnages sont ultra typés, c'est un peu absurde, les réactions des personnages sont un peu absurdes, tout en fait est un peu absurde. Et en fait, c'est ce que je trouve difficile avec les parodies, je pense, c'est d'en faire une bonne parce que c'est... Est-ce qu'on pousse dans à quel niveau?
Ouais, jusqu'où on va dans la
Oui, c'est ça, puis est-ce qu'on pousse tout à l'extrême, les personnages à l'extrême, leur personnalité. Là. Fait que, je pense qu'on a peut-être poussé un peu trop loin dans cette, dans cette parodie-là. Ouais, un peu trop. Des fois, c'est un peu exaspérant, surtout au niveau des réactions des personnages ou des comportements, là, comme le détective qui est là, puis qui est comme « Ah oui, ben expliquez-moi ». Je veux dire, ça fitait pas.
C'est quoi, c'est l'incompétence un peu qu'on exagère? Mais
en fait, je trouvais que, oui, on exagérait beaucoup le fait que les personnages étaient cons, genre.
Mmh. Ouais, ouais. Mais... comme dans une comédie française, mais pas française.
Oui, mais pas comme dans une comédie française, parce que c'était pas aussi drôle que dans une comédie française. Mais on jouait vraiment beaucoup avec ça. Un sens de déduction. Les personnages avaient un sens de déduction qui était vraiment ultra faible. C'était vraiment... c'est pas... Donc, j'ai vraiment vu... des meilleures parodies que ça dans ma vie, honnêtement. Là. Celle-là, c'est pas la plus réussie. C'est pas non plus un fiasco total. Ça s'écoute bien en faisant autre chose, en préparant le souper. Bon, tu sais pas, tu veux mettre quelque chose, un bruit de fond un peu pour te divertir. Bon, ou sinon...
okay, on le regarde même pas. Non, là. Mais tu peux, c'est juste le son.
Ça dépend, de ça dos, dépend.
Les yeux fermés, avec des bouchons dans les
pour
oreilles.
Pour endormir ton bébé.
Oui, c'est ça.
Non, c'est
quand même pas pire.
Non, mais c'est ça, c'est pas un film grandiose. C'est sûr que ceux qui sont des... ceux qui aiment beaucoup les parodies... absurde, un peu, vous allez aimer ça.
Moi, ceux qui aiment les mauvais films, vous allez aimer ça. Ouais.
Non, mais il y en a des très bonnes parodies absurdes.
Oui, non, tout à fait, tout à fait.
Il y en a des très, très bonnes, ouais, mais celle-là, non. Et je dirais quand même, les acteurs sont quand même tous bons. Ils jouent bien le rôle qu'il leur est donné, c'est-à-dire le personnage qui est vraiment exagéré. Jennifer Aniston, très bien. Mais Adam Sandler, son jeu, il m'a vraiment dérangé. Là. J'étais vraiment exaspérée un peu par sa façon de jouer.
Mais est-ce qu'on peut se dire une chose? Est-ce que c'est pas une situation récurrente que le jeu d'Adam Sandler nous dérange? Moi, je sais pas. Moi, personnellement,
mais il
90%
m'a
de ses films me dérangent.
Mais effectivement, oui. Mais je me suis fait la réflexion après. Il y a peut-être deux choses. La première, c'est peut-être parce que beaucoup de ces films, je les écoutais quand j'étais plus jeune, donc je les écoutais en français. Donc peut-être que ça me dérangeait moins son jeu parce que...
C'est déjà mal traduit, on est habitué, ouais.
Fait qu'il y a peut-être ça. Mais sinon, c'est peut-être juste vraiment dans ce film-là parce que contrairement aux autres acteurs, il y avait vraiment l'air de jouer un personnage. Il avait pas l'air... d'être un personnage. Ouais. C'est-à-dire que Jennifer Aniston réussissait à incarner le personnage qu'on lui donnait de la femme qui est coiffeuse, qui est un peu superficielle, qui est pas très vite, par exemple, mais qui est drôle, qui est jolie. Elle réussissait très bien à rendre son personnage crédible. Tandis que lui, il prenait un genre d'accent vraiment bizarre, puis je sais pas. C'est dur à dire, mais non, son jeu m'a vraiment dérangé. Puis, quand même. Sinon, les autres étaient bons.
Ouais, quand même. Mais est-ce que c'est ça, c'est tous les autres qui étaient bons. Fait que, parce que, tu sais, on avait parlé aussi dans les mauvais films, dans un dernier épisode, que, que des fois, c'est aussi la réalisation.
Oui, ça peut, ça peut.
Mais si les autres acteurs étaient dans une autre trame, c'est peut-être...
Je sais pas, moi, honnêtement, les films bons avec Adam Sandler, j'en connais pas tant.
Bon, on fera un top dans une autre émission.
Oui, on fera quelque chose sur Adam Sandler éventuellement.
Oui,
mais ça reste le film, écoutez, j'hésite à tant vous le recommander. Comme je disais, si vous avez envie de voir de quoi de relax sur Netflix, il y a plein d'autres films. Sinon, moi, je lui donne un 5 sur 10. Vous allez rien manquer de ne pas le regarder. Si vous êtes des fans, ben, vous allez sûrement pas être d'accord avec moi.
Des fans de quoi? D'Adam Sandler?
Ben, j'imagine que ça existe.
Ou des mystères.
Ah oui, ça existe sûrement. Des mystères. J'aimerais, si y a un fan qui nous écoute, Adam Sandler, j'aimerais que vous nous écriviez sur Facebook. On aimerait faire une entrevue exclusive avec vous. Et voilà. Merci beaucoup, Mélina. De retour à Ciné Brunch, en compagnie de Jim Boulet, Mélina Lopez-Nado et de François Genet. Et qui, François Genet, va nous parler dans un 6 ou 7 minutes, va nous parler de... ça dépend combien de temps je vais faire. C'est toujours ça le problème. Ouais. Va nous parler des records au cinéma, mais attendez-vous à quelque chose d'assez inusité. Là. Je vous le dis tout de suite, ça va être spécial.
Ah, tout à fait.
Ah oui, je suis convaincu. Ça fait comme... quoi? C'est des 6 mois qu'ils préparent ce bloc-là. On va donc... écoute, je me paie plus d'attendre ce moment. Mais en attendant, question de vous faire patienter davantage, je vous propose d'écouter une courte critique, hein? Modérément courte critique du film Le Mystère d'Henri Pic que j'ai été voir pour vous. Le Mystère, en fait, Henri Pic est une comédie franco-belge de Rémi Besançon, qui met en vedette Fabrice Luchini, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps dans quelques films, qui franchement est un acteur vraiment intéressant à mon goût. C'est sous-utilisé, cet acteur. Camille Cotin, Alice Izaz et Bastien Bouillon. Voici tout de suite, sans plus attendre, la bande-annonce.
Les dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic. Véritable triomphe littéraire. Madeleine Pic, je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman?
Vous êtes en train de vous moquer de mon mari.
Non, mais vous l'imaginez, le pizzaïolo breton qui pond un bouquin de cette envergure?
Mais sérieusement, toi, tu vois papa écrire ça entre deux fournées de pizza?
J'ignore qui a écrit ce livre, mais je vais trouver.
Mais pour qui? Vous avez le culot de venir ici? Mais ça va pas bien, vous!
Pourquoi Henri Pic? Pourquoi toute cette mystification?
J'ai besoin de vous pour aller au bout de cette enquête. Vous êtes un peu mon docteur Watson.
Et pourquoi c'est vous, Sherlock Holmes?
Bah parce que c'est mon enquête.
Pourquoi ce serait pas autre chose?
Oui.
Voilà, donc c'était la bande-annonce du film, Mystère Henri Pic. Et puis, honnêtement, la bande-annonce, pour en parler rapidement, est intéressante parce que j'admets qu'elle dévoile beaucoup, mais pas dans l'ordre qu'on s'attend. Donc, quand on regarde le film, c'est pas tout à fait chronologique ce qu'il y a dans la bande-annonce. Donc, il y a un petit jeu, on s'est amusé, sans déformer la réalité plus que ça. On garde un aspect mystérieux. C'est un bon coup, honnêtement. Il y a assez de mauvaises bande-annonces qui circulent ou de bande-annonces trompeuses. Cette fois-ci, on a juste été correct dans l'utilisation. Donc, je l'apprécie, je le nomme. Que les réalisateurs m'écoutent. Donc, voilà. C'est une histoire, donc, le mystère Henri Pic, c'est une histoire d'une sorte d'enquête littéraire, si on peut dire. Une jeune éditrice de Grasset qui visite la bibliothèque des manuscrits refusés, qui est une espèce de bibliothèque où tous les manuscrits qui ont été refusés par les éditeurs se retrouvent. Donc, elle visite, la jeune éditrice, cette bibliothèque et découvre un manuscrit incroyable. Elle décide de le faire publier et c'est un best-seller instantanément. La famille de l'auteur décédé, Henri Pic, est tout à fait surprise, en fait, parce que Henri Pic, c'est un pizzaïolo, donc un pizzaïolo, pour ceux qui ne savent pas, dont moi jusqu'à aujourd'hui, c'est un chef qui prépare des pizzas. Ben, Henri Pic n'a jamais été vu en train d'écrire ou de lire un livre de toute sa vie, et à son émission télévisée, le célèbre critique littéraire Jean-Michel Rouche, interprété par Fabrice Luchini, qui est vraiment très doué, confronte la femme de l'auteur puisqu'il n'est pas dupe et qu'il sent la supercherie derrière cette étrange situation. Évidemment, la vie du critique s'effondre suite à son intervention en ondes pour prouver que l'auteur ne peut pas être Henri Pic et ça devient une affaire personnelle. Mmh. Il devient dans une quête là, personnelle de prouver, de trouver qui a vraiment écrit ce livre-là, si c'est pas Henri Pic.
C'est lui qui se prend pour Watson, là.
Ben, en fait, non, il se prend pour, pour Sherlock Holmes.
Oui, Sherlock
voilà.
Holmes.
Exactement. Et voilà, et donc, évidemment, dans toute cette histoire-là, il va se joindre à la fille d'Henri Pic pour essayer de trouver la situation, la réponse à cette situation. C'est un genre de whodunit, donc on suit l'enquête de l'intellectuel Jean-Michel Rouche à travers sa quête désespérée de la vérité. Et comme je viens de le dire, ben, la fille d'Henri Pic va se joindre à lui pour savoir de son côté plutôt ce qui en est de son père, qui a eu des problèmes d'Alzheimer à la fin de sa vie. Donc pour elle, il y a une valeur ajoutée à tout ça. Alors honnêtement, je me suis vraiment beaucoup amusé dans ce film-là. C'est très bon. Il y a des petites incohérences scénaristiques par-ci par-là. Il faut savoir que c'est adapté d'un roman aussi. Le roman s'appelle « Les mystères d'Henri Pic » de David Fuenkinos. Vous remarquerez qu'en général, quand il y a des adaptations, on change un petit peu le nom. Oui. Comme de fait, le film s'appelle « Le mystère Henri Pic » et non pas « Les mystères d'Henri Pic » comme le livre.
Donc,
mais il y a toujours des petites affaires comme ça. Je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a des raisons légales derrière ça, d'après moi. Les acteurs sont presque tous excellents, surtout M. Luchini. Luchini, je pense que c'est... Oui, Luchini ou Luchini, je ne sais pas. Je pense que c'est Luchini. Donc, tout le monde, ou presque, est bon. Hein? Il y a malheureusement des moins bons coups derrière ça, mais c'est des rôles un peu moins importants. J'ai dit qu'il y avait des petites incohérences au niveau du scénario. Bien, évidemment, je ne veux pas tout dévoiler parce qu'il y a des morceaux d'intrigue qui sont liés à ça, mais on sent qu'il y a des fausses pistes non expliquées, surtout à la fin. Il y a des choses un peu bizarres comme ça. En fait, c'est surtout la fin du film qui n'est pas à la hauteur du film, à mon avis. Ça nous laisse un peu sur notre fin avec une ouverture, avec des sous-entendus pas trop clairs qui ne servent pas tellement le genre du film. L'autre point négatif, s'il y en avait un autre, serait la musique. Donc, la musique ne marche pas dans ce film-là, à mon goût personnel, en tout cas. Pas du tout, même. C'est assez pénible. Franchement, on se croirait dans les années 90 avec des faux instruments mal samplés, un rythme électronique qui colle pas du tout au récit. Puis en plus, on se la joue dramatique au niveau musical, alors que c'est une comédie à la base. C'est même pas une comédie dramatique, là. C'est une comédie à la base, ce film-là. Mais le fait qu'il y ait de la musique toujours un peu dramatique ou d'enquête ou de trucs... J'ai l'impression qu'on veut nous garder en haleine. Ça fonctionne peut-être, mais...
Mais pas pour toi.
Ça marche pas. Non, ça marche juste pas. J'aurais... Oui, le choix de la musique classique, comme à peu près tous les films français, c'est correct. Mais là, on sent que c'est samplé par Monsieur de la banlieue. Là. C'est pas un chef-d'œuvre au niveau... ça m'étonnerait beaucoup que le comment on appelle ça, la trame sonore du film gagne des prix. Quoi qu'il en soit, le film est excellent. Je vous donne un 8,5 sur 10 à ce film-là. C'est très bon. Allez voir ça si vous voulez vous amuser un peu. Ça passe super vite. Très agréable. Les acteurs sont drôles. Puis ça nous fait quand même réfléchir sur certaines choses un peu plus poussées. Donc ça vaut la peine d'aller une journée un peu trop chaude ou un peu trop froide. Hein, parce qu'à ce temps-ci, ça varie entre les deux. Ben, allez faire un petit tour au cinéma. Allez voir le Mystère Henri Pic. Vous allez bien vous amuser. Voilà, c'est tout pour moi. Sur ce beatbox, François, c'est le moment où tu nous parles d'un sujet tant attendu, hein, d'une 6 mois de préparation derrière ça.
Écoute,
ça va être incroyable pour cette dernière émission
de printemps. 6 mois condensés en une soirée que j'ai pas dormi.
Voilà.
Non, mais en fait, ça faisait un petit bout de temps que je voulais parler de ça, des films, parce qu'on parle souvent à Cinébrunch de pourquoi on fait un film.
Ouais. Répond rarement, d'ailleurs.
On répond rarement à la question. Non, on pose des questions, on répond à rien comme question, c'est magique. Mais... c'est ça, donc il y a des records des fois qui sont faits par des films, puis on se dit, est-ce que justement le record prédomine sur le film, est-ce que les records du monde est-ce que les films sont faits que pour faire des records? Je trouve ça intéressant d'essayer d'aller creuser un petit peu plus là-dedans pour essayer de trouver des records, essayer d'en parler, et on va faire quelques petites questions sans compter les points là, un peu informels tout ça, mais on va avoir bien du fun pendant jusqu'à la fin de l'émission, vous allez voir, ça va être magique. Donc pour les gens qui nous suivent, j'avais parlé il y a quelques épisodes quand même là, de ça, du film le plus long qui a jamais été fait.
Oui, c'est super long.
Est-ce que vous
long,
vous
là.
Souvenez du titre du film? Et là, c'est le premier quiz.
C'est un truc sur la guerre, là.
Et pas du tout.
Pendant la guerre?
Non. Ça, c'était dans ta tête pendant que tu m'écoutais pas.
Je me souviens juste que c'était vraiment long comme film.
C'était pas un film sur un film?
Oui, mais c'est le film le plus long. Non.
Non, mais il y a un film sur ce film-là, dans ce cas-là.
Non, ça, c'était un autre film que j'avais parlé que pendant le FCMS.
C'est trop méta, cette affaire-là.
Je sais, tout à fait. Non, c'était Logistics, qui était un genre de long plan séquence, presque, qui prenait un petit item qui était shippé et qu'on voyait toute son aventure sur un bateau, etc., etc. Et donc, ça durait plus de 35 jours, 51 420 minutes. C'est le film le plus long qui a jamais été fait. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ça serait intéressant d'aller plus loin là-dedans et de regarder tout ça. Alors ça a été fait en 2012. Quel est le deuxième film le plus long à avoir jamais été fait? Parce que je trouve qu'on s'attarde jamais au deuxième plus
c'est
long
vrai, t'as raison,
de quelque chose.
Le podium,
deuxième,
c'est quand même trois personnes.
Le podium, exactement. Oh oui. Les deuxièmes de quelque chose, on s'entend qu'on n'en parle jamais. Et le deuxième a été fait en 2011, le deuxième plus long film. Donc, on s'entend que le plus long film a été fait en 2012 et l'autre a été fait en 2011. Donc, on s'entend qu'il y a une petite compétition quand même. Pendant un an, ils ont fait « On est les plus longs », puis là, un an après, ils sont fait enlever le trophée sous la patte. Donc, ça s'appelle « Modern Times Forever ». Il dure seulement
14 400 minutes, ce qui veut dire un maigre 10 jours comparativement à Logistics qui est plus de 35 jours, on s'entend. Il y a une petite différence quand
le
même.
Le prochain dure un an, là.
Ben, ça, là. Va pas trop vite, Jim, on va s'en aller là-dessus l'avenir. Donc ça, c'est le deuxième plus long film présentement. Et le film, c'est quand même assez drôle parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on a à raconter pendant 10 jours? Et c'est quand même une bonne question. Et dans le fond, le film a été projeté sur, pour la première fois, il a été projeté sur un immeuble et ça montre l'assimilation accélérée du vieillissement de ce bâtiment-là sur les 1000 prochaines années.
C'est donc même...
Donc, c'est quand même assez métaphorique, cette patente-là.
C'est
une chance quand même qu'il a fait un petit time-lapse quand même avec ça, qu'il est allé plus vite parce que sinon ça
en temps réel, ça dure ta vie.
Ça aurait été un petit peu contraignant quand même. Mais donc, 10 jours là-dessus à projeter sur le même immeuble, ça a dû être assez spécial quand même de vivre ça. Donc, assez intéressant. Sinon, on va aller du côté des films non expérimentaux les plus longs parce que ça c'est évidemment des films
c'est pas de la fiction, c'est souvent des
longs plans séquences ou des trucs comme ça que bon
ça doit être plate, quelque chose de rare, hein, on va se dire 10 jours de film là,
ben c'est sûr que tu te prends une petite pause popcorn ou pipi à quelque part là-dedans
c'est clair aussi,
à mi-chemin là, après 5 jours
non c'est exactement ouais. Donc mais là si on s'en va au niveau de la fiction, je trouvais ça intéressant d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Ben en fait, dans le temps, c'était Resan, 1980. En 1987, il y a eu le film Resan, qui était un documentaire. Et là, c'est peut-être là que ton côté militaire vient. C'est un documentaire sur l'impact des armes nucléaires faites par les gens militaires. Ça dure 873 minutes. Là, tu vois qu'on a baissé de pas mal le nombre de minutes quand on s'en va dans le côté non expérimental. On baisse vraiment de beaucoup le nombre de minutes.
Ouais, quand même.
Mais récemment, en décembre 2019, va sortir au Bangladesh, oui, on est dans l'actualité, va sortir le film Amra Ekta Cinema Banabo, que on peut aussi dire en anglais « The Innocents ». Fait que je sais pas pourquoi on dirait pas ça, mais c'est beaucoup plus simple à dire.
C'est un mot au lieu de 10, hein?
Oui, tout à fait. Ça, oui. Et ce film-là va durer 1265 minutes, ce qui veut dire 21 heures 5 minutes. Donc là, déjà, pour un film de fiction, entre guillemets.
OK, c'est une fiction de 21 heures.
Oui, c'est un film qui n'est pas expérimental. Ça a pris 9 ans à filmer. Wow. Et là, on dit pas souvent des films, c'est long, l'entièreté du film à faire, c'est long.
Ah oui, le montage est long, tout ça est long.
Mais tourner, on a à peu près quoi, 30 jours de tournage pour un film, des trucs du genre, à peu près. Là, on a 176 jours de tournage avec tellement de monde qui ont participé au tournage. C'est assez
ça
magnifique.
C'est délirant, cette affaire-là.
Oui, j'ai hâte de voir ça. Donc, dans un cinéma peut-être loin de chez vous, parce qu'au Bangladesh, ça va sortir. Donc,
c'est ce genre de truc qui marcherait peut-être en série là, chronologique, là, des choses comme ça, parce qu'en film, personne ne va écouter ça.
Non, ben c'est ça, c'est quand même 21 heures, c'est quasiment
c'est presque une journée complète.
Il n'y a aucun cinéma pour le moment qui est ouvert assez longtemps pour qu'on aille voir ça.
Il y a sûrement les cinémas 24 heures, mais il n'y a pas un chat qui va... Je pense qu'encore là, ça a été pensé pour un record quand même. Là.
Ben c'est ça, c'est là aussi la question. Est-ce qu'on vise le record, puis... peut-être qu'on visait le record dans ce cas-là, t'sais. Mais c'est quand même 9 ans, plus de 9 ans. À quel point tu passes plus de 9 ans sur un record?
Ça peut être super bon. Hein.
Aussi, ça peut être extrêmement bon. Donc, on a hâte de voir. Peut-être qu'on va le critiquer. Non, il faudrait voir on va le critiquer. On va voir si on va pouvoir être capable de mettre la main là-dessus et toffer le 21 heures. On peut quand même mettre des pauses là-dedans.
En bloc de 3 heures, ça peut se faire.
Cette bloc de 3 heures.
C'est long, là.
Imagine.
C'est quand même assez long. Et parlant de ça, il y a beaucoup de personnes qui veulent constamment, comme là, il y a un film de 2019, qui veulent constamment, gagner la palme du film le plus long. Et il y a un film, justement, le film MBNC, qui ne parle pas de la chanteuse Beyoncé, là. Rassurez-vous, attention.
Je m'en allais te poser la question.
Je voyais dans tes yeux, Jim, que tu t'en es là. Du réalisateur Anders Wennerg. En fait, lui, son but, c'était de faire le film le plus long au monde. Il a acheté le site web, le nom de domaine, Longest Movie, okay. Je sais pas trop, quelque chose de genre. Et d'ailleurs, j'ai essayé de visiter pendant ma petite recherche hier soir. Et le site web, il y a une erreur JavaScript dessus et ça plante. Donc, allez-y pas tout de suite. Je pense qu'il a réalisé que son film, au final, dure seulement 43 200 minutes, ce qui veut dire 30 jours. Ce qui est pas
ça va
assez.
Être le record des records.
Non, ce qui n'est pas assez, parce que Logistics, c'est plus de 35 jours. C'est 51 420 minutes.
Il y a peut-être une journée de crédit là-dedans. Là.
Non, ben non. Donc, c'est pas assez. Donc, la majorité des sites web disent que ça va être le film le plus long, mais je ne comprends pas pourquoi. Faux. Certaines autres places disent que ce n'est pas le film le plus long. Donc, je pense
qu'il va sûrement avoir un director's cut. Là, plus
ouais,
long,
quand il va le réaliser, et je pense qu'il l'a réalisé parce que il a dit qu'une fois qu'il va le projeter une fois, en fin d'année, le 31 décembre, si je ne m'abuse, 2020, ben oui. Je crois.
Pourquoi pas, en deux feux d'artifice, en mangeant
oui, exactement.
Le dindon. Puis tout le
il va le faire ça pendant, j'imagine, tout le mois de janvier, parce que c'est 30 jours. Et le 31 décembre 2020, exactement, il va faire ça. Et après ça, il va détruire les copie de ce movie-là, de ce film-là, excusez.
Fait que c'est une expérience.
Et pour que ça soit le film le plus long qui n'existe plus. Il a dit « The longest film made that doesn't exist ». Donc, j'imagine qu'il s'est rendu compte que mon truc marche pas et donc je vais le détruire pour quand même
on
avoir
s'entend-tu
un record.
On s'entend-tu qu'il va s'en garder une copie quelque part, là?
Ben, mais on en même temps, ça dépend. Parce que il a déjà commencé à nous teaser. En 2014, il a sorti un teaser de 72 minutes. Et il a détruit ce teaser-là d'Internet. On ne peut plus le trouver.
Peut-être d'Internet, mais il doit avoir une copie quelque part. Là,
mais on sait pas.
Imagine, tu passes autant d'années de ta vie à travailler sur quelque chose.
Sûrement qu'il y a un disque dur à quelque part
et
avec le
ensuite,
film.
En 2018, il a sorti un trailer, donc une bande-annonce, pas juste un teaser, mais un trailer de 72 heures. Et le film dure 720 minutes. Donc là, si tu peux voir, 72 minutes, 72 heures et 120 minutes, pour le film. Donc, on peut voir que, tout doucement, c'est encore le 72. On rajoute un zéro à chaque fois. Donc, il y a comme un concept un peu derrière tout ça. Je pense qu'il a beaucoup trop mangé de chocolat avant de se coucher dans sa vie. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé de peu triste. Mais tout ça pour dire que, là, dans ce film-là, je crois qu'on est vraiment dans le record. On ne veut que faire des records.
Oui, clairement.
Le but n'est que de faire des records.
Je pense pas que la colo va être extraordinaire sur ce film-là. Je pense que
ça se pourrait
faire un montage assez rapide.
Qu'on tourne les couérons un peu. Ouais. Sinon, le film le plus long qui est, dans le fond, sur une unité, dans le fond. Un peu comme Les Seigneurs des Anneaux est une unité de temps.
Une saga.
Une saga. Mais parce que James Bond, c'est pas une saga dans le sens où c'est pas la fin du 1.
Non,
commence
c'est pas chronologique, c'est épisodique.
C'est ça, exactement. Donc, le plus long film qui est fait en partie, c'est The Burning of the Red Lotus Temple, qui a été fait en 16 parties et qui est donc 1620 minutes, 1 jour et 3 heures, donc, qui a été fait en Chine entre 1928 et 1931. Et ce film-là, croyez-le ou non, il est perdu.
Hein?
On ne peut plus le voir.
Mais voyons.
Il fait partie des fameux Lost Films, des films perdus, comme il y a plein de films perdus, comme par
triste.
Exemple plein de films de Méliès qu'on a perdus.
Oh oui, c'est normal aussi vu l'époque.
Plein de films aussi qu'ils ont enlevé parce que
il fallait réutiliser
les bobines, il n'y avait plus beaucoup d'argent, il faisait faillite, donc ils réutilisaient. On perdait des films. Donc, quand même, je me suis assuré pour que ça ne pète pas le record de l'autre d'Ambiance. Mais non, au moins, ce n'est qu'une journée et trois heures, parce que sinon, ça répétait aussi le record du film qui n'existe plus le plus long. Donc, clairement...
Tu as fait une bonne recherche, quand même.
Oui, tout à fait. Notre ami Anders Wenerg aurait été quand même triste, mais on s'entend que le film de ma vie et dans ma tête n'existe pas et est plus long que 30 jours. Donc, juste un petit mémo.
Tu vas peut-être le perdre un jour si tu fais du Alzheimer.
Ah, mon doux, tout à fait. Alors, peut-être, tout à
bon,
fait.
On verra.
Alors, voilà. Alors, sinon, on va aller quelque chose d'un petit peu moins obscur, là. Quelque chose que vous allez peut-être savoir. Est-ce que vous savez quel est le film qui a fait le plus grand nombre de recettes dans l'histoire du cinéma?
Je dirais Avatar.
Le numéro 1, Avatar. Toi, Mina?
Je pense que le dernier Avengers vient de le dépasser.
Oh!
Mais ça dépasse, c'est-tu dans les week-ends ou de
non,
sortie?
Non, au complet.
Au complet.
Le nombre de recettes au complet au box-office. Et vous avez un petit peu tous les deux raisons, parce que pour l'instant, c'est encore Avatar qui tient la palme d'or, mais Avengers est vraiment, vraiment, mais
sur
vraiment
le
sur le point de les dépasser.
Mais là, il n'est plus en salle partout. Il doit être encore en salle à certains endroits. Il est encore endroits, à certains endroits,
mais on est vraiment sur le bord de pouvoir le dépasser. Okay. Donc, on est encore en train de retenir notre souffle.
Ça va donner un petit coup de pied
si...
à James Cameron de sortir son Avatar 2, 3, 4
Exactement,
et 5.
Parce que avant Avengers, il y avait Avatar et Titanic qui étaient deux de James Cameron. Donc, il va falloir qu'il se grouille le derrière pour sortir le Avatar 2. Mais sinon, une des choses qu'on ne parle presque jamais, c'est quel film qui rapporterait les plus grosses recettes si jamais on prenait les vieux films et on les ajustait avec l'inflation.
Ah oui, ça c'est intéressant. Oui.
Parce que
oui,
ça, on en parle souvent.
Les vieux Spielberg, des affaires comme
exactement.
Ça.
Oui. Donc, est-ce que vous avez une petite idée du film qui aurait pu remporter les plus grandes recettes si jamais on essayait de reprendre ça avec l'inflation?
Ben, je dirais Star Wars, l'épisode 4, là, A New Hope, doit être quand même très élevé. Là.
OK, quand même, intéressant. Ouais. Toi, Mélina?
Je dirais avec un Spielberg, peut-être, mais je sais pas, j'hésite.
Moi, j'aurais peut-être Jaws.
Ouais, peut-être Les Dents de la Mer.
Oh,
ouais.
Quand même.
Jaws ou ben, E.T. probablement, très haut.
Quand même, vous avez quand même des...
On est
vous
proche,
avez des films qui sont dans les tops. Star Wars est 4e, E.T. est 7e, quand même. Mais le premier, c'est Gone with the Wind.
Oh mon Dieu, c'est pas sérieux?
Ben, je suis tout à fait sérieux.
C'est
film de 1939.
Comme film en
plus. C'est ça, c'est que l'inflation est très
c'est que importante. Ouais. Comme 1939, effectivement, l'inflation est vraiment importante. Puis c'est un film qui avait quand même... eu un succès énorme dans le temps. Oui. Donc, présentement, ça a quand même dépassé Avatar, malgré tout. Donc, c'est quand même un film qu'on pourrait renommer « Gone with the Money », parce que clairement, c'est pas parti au vent, tout ça. Il y a quelqu'un qui s'en est mis plein les poches.
Ben oui, mais... ouais, ben moyen, parce que justement, avec l'inflation, au début, c'était moins intéressant, d'après moi.
Oh, oui, mais s'il a mis ça dans un CELI, hein,
il doit comme CELI, ne disons.
Et là, 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 là.
J'ai fait pour toi, celle-là.
Oui, ben, on sent que les vacances approchent.
Sinon,
il y a aussi tout plein de trucs qu'on ne pense pas nécessairement. Par exemple, le film qui a le plus grand poster.
Hein? Non, j'aurais pas pensé, effectivement.
Tout à fait. Il était rendu tard hier soir quand j'ai trouvé ce genre de truc-là. Alors, le film Bahubali, en tout cas, bref, ce film indien qui est sorti en 2015 a eu le record Guinness pour avoir le poster le plus grand qui avait l'équivalent de 18 terrains de tennis.
Hey!
Wow!
C'était assez magistral.
Fait que tu pensais l'imprimante qu'il y avait avec ça?
Et bon, nous, quand même, hein, là, chez Bureau en gros, ça doit coûter une beurrée.
C'est pas facile.
C'est clair. Ouais. Mais les films indiens, je pense, aiment beaucoup les gros posters parce que juste un petit peu après, en septembre 2015, eux autres ont fait ça en juillet 2015, et en septembre 2015, un autre film indien a décidé de voler la vedette, et le film MSJ2 de Messenger
se rend jusqu'à la lune
a décidé de le faire un autre, et ils sont allés dans un stade de cricket et ont décidé de faire un poster encore plus grand que celui précédent qui est de 5969 mètres carrés. Donc c'est du c'est grandiose. Et là, on ne compte plus les terrains de tennis que ça ferait, tout ça. Et ce film-là est tellement louche parce que plus on essaie des fois de cacher, hein, je pense, avec les records,
que le film n'est pas nécessairement bon.
Et c'était un film un peu religieux et très contesté et qui avait un côté éditorial un peu contesté en Inde. Donc, eux autres, ils ont décidé de faire le plus grand nombre de personnes dans un selfie, le plus grand nombre de personnes qui dansent dans un film ensemble.
Okay, ils voulaient faire plein de records.
Ils ont fait plein de records asiatiques et mondiaux.
Est-ce qu'ils ont gagné le record du film qui a battu le plus de records?
Ouh!
Est-ce que ce record existe?
Ça, c'est une bonne question, peut-être dans cette prochaine chronique.
Oui.
Sinon aussi, le film qui a eu le plus de figurants dans une même scène, est-ce que vous savez c'est lequel?
Oh, j'irais dans un film religieux.
300?
Non, moi j'irais dans un film du genre Ben-Hur ou quelque chose comme ça.
Ben-Hur, il y en avait beaucoup, effectivement. C'est un qui vient dans les tops. Mais sinon, le film, selon mes recherches, qui aurait eu le plus... Parce qu'encore là, c'est vraiment difficile de savoir c'est lequel les meilleurs, parce que c'est des affaires qui sont difficilement répertoriables des fois. Ça serait le film Gandhi en 1982 qui a eu plus de 300 000 figurants pour la scène des funérailles de Gandhi.
Wow.
Il y avait quand là-dedans... inventé le CGI là, ça a vraiment.
Ben c'est ça aussi parce que tous les films les plus récents, ben il y avait du CGI là-dedans. Donc il y avait plus de 200 000 personnes qui étaient des bénévoles, des gens qui étaient là pour le fun et 94 000 personnes qui étaient payées un petit peu parce que sinon il aurait fait faillite. Donc tout ça pour quelques secondes. Hein,
imagine le troisième assistant réel qui s'occupe des figurants. Ouais. Lui, c'est ça sa job.
Il doit avoir beaucoup de troisième assistants là, dans ce
film. Clairement. Là. Ouais. Et sinon, le dernier record qu'on va regarder rapidement, c'est le record de les plus de gens qui sont allés à une première de film et qui est aussi le plus grand nombre de personnes qui ont vu un film en même temps. Et ça, c'est un film biographique, Félix Manalo, un film de Philippien. Eux autres sont allés dans un stade. Donc 43 624 personnes qui étaient là dans un stade là, qui étaient là pour regarder ça. J'ai l'impression que personne n'a compris et entendu ce qui se passait parce qu'il y avait trop de monde. Mais au moins, le son ne devait peut-être pas être excellent. Ben mais non. Ils ont fait partie d'un record. Donc même les gens, pas juste les producteurs, veulent faire partie du record, même si au final, on en perd sur la qualité peut-être du visionnement, mais on fait partie d'un record, donc on aime ça. Donc, essayez de poser une belle petite question comme ça pendant cette fin de semaine, il faut réfléchir à ça.
Ben oui,
pourquoi vous allez voir des films et pourquoi on fait des films?
Exactement. Ce sera sûrement le sujet d'une autre émission tôt ou tard.
Tout
sinon, en attendant, c'était notre dernière émission. Merci François!
Plaisir!
C'était notre dernière émission avant le début de la saison estivale. Dès la semaine prochaine, vous aurez de nouveaux co-animateurs pour s'occuper de vous. Et évidemment, bon, François Mina et peut-être moi-même, on viendra de temps en temps faire un tour pendant l'été, mais dans tous les cas, on prend des vacances et on se retrouve à l'automne plus sérieusement pour la suite de Cinébrunch. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
à tous. À la semaine prochaine.
Bon été.
Bon été.